12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Pour elle, tous les matins du monde n'ont plus la même saveur depuis la disparition de Jean-Pierre Marielle. Elle a l'impression d'avoir perdu un vieil oncle de la famille, Léa Landau.
Et oui, il va beaucoup nous manquer. Bonjour à tous.
Au contraire de Nathalie Loiseau, il n'a jamais été sur une liste d'extrême droite à Sciences Po, tout simplement parce qu'il n'a jamais fait Sciences Po et qu'il se situe politiquement à l'extrême centre, Laurent Barra.
Bonjour, bonjour à tous.
Comme le chanteur Prince, lui aussi, il aimerait sortir ses mémoires inachevées. Il y aura une page blanche sur deux. Le prince de la voix grave, Michael, qui regarde.
Eh oui, Jean-Pierre Marielle, c'était un modèle, mon petit.
Il aimerait lui aussi un jour avoir la virilité, la gentillesse et le talent de Jean-Pierre Marielle. Tout le problème, c'est qu'il est moins proche de Marielle que du Mariol.
Exactement.
Jean-Philippe Vizini.
Je me suis reconnu. Bonjour les amis, bonjour.
Et sans elle, nous nous sentirions aussi seuls et démunis que l'avocate François Fillon en ce moment, celle qui nous donne de la bonne humeur à perpétuité, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Vizini apportera son soutien aux urgentistes des hôpitaux de Paris en grève illimitée depuis le 15 avril. À 11h30, nous recevrons le comte de Boudherbala, actuellement en spectacle au Théâtre Le République à Paris. Michael Quiroga reviendra sur son parcours. Et à partir de 11h50, la tenniswoman Marion Bartoli, la championne, sera notre invitée pour son livre Renette, sorti hier aux éditions Flammarion. Laurent Barra lui dira toute son admiration et Léa Landau lui a préparé une interview à la volée.
Oui!
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors, d'après une étude, un cadre sur trois a déjà démissionné à la suite d'une mauvaise intégration au sein d'une nouvelle équipe. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu du mal à vous intégrer? Comment s'est passée votre intégration dans cette émission? Vous vous rappelez de votre tout premier jour ici, Jean-Philippe?
Bah alors ça, je m'en souviens, je peux vous dire, mon entretien d'embauche. Surtout que vous avez des critères de sélection un peu particuliers. Obligé de vous réciter 4 fois de suite la recette du fondant au chocolat. Réussir à faire une pâte à crêpes sans grumeaux, les yeux bandés, tout en récitant par cœur tous les ingrédients qu'il y a dans un Kinder Surprise. Vous avez de la chance que je ne suis pas syndiqué. Hein. Je pourrais me plaindre, moi.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots. Ayons une pensée émue pour tous mes ex, hein, qui n'ont jamais rien su faire de leurs 10 doigts.
Oh, tous tes ex, Il y en a eu combien, au moins
5 ou 6. Hein. Une première dans le foot français dimanche prochain lors du match Amiens-Strasbourg. Stéphanie Frappard sera la première femme désignée arbitre centrale en Ligue. Enfin, une femme qui va pouvoir mettre un carton rouge à un mec qui simule. On inverse les rôles.
Nabila, la star de la télé-réalité, a dévoilé sur Instagram des images de son échographie.
Une star, Nabila, elle est connue, mais pas autant que Kim Kardashian, par exemple.
Oui, mais c'est normal, Kim Kardashian, elle n'avait pas publié l'échographie de l'enfant. Elle avait publié la conception.
Jean-Pierre Marielle nous a quittés, mais il a une bonne excuse. C'est pour rejoindre ses copains qui commençaient à s'impatienter. D'ailleurs, en apprenant la nouvelle, Philippe Noiret, Jean Rochefort et Claude Riche se sont exclamés « Ah, tu te décides enfin, c'est pas trop tôt !» Et Marielle aurait répondu « Je vous ai apporté les galettes de Pont-Aven.
» La famille royale d'Angleterre a publié une photo du prince Louis sur laquelle on peut voir qu'il n'a que 2 dents. Eh ben, c'est pas lui le futur roi, mais c'est quand même lui qui a le plus besoin de se faire poser une couronne.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Laurent Barra, Michael Quiroga et 2 de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour VVF Village pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce jeudi avec Michael Quiroga, Léa Landau, Laurent Barra, oui. Jean-Philippe Vizini. Jean-Philippe, ça se passe bien les vacances de Pâques avec vos enfants?
Très bien, mais ils sont partis.
C'est pour ça que ça se passe bien.
Je voulais vous dire, ils sont partis mardi, ils ont pris la route en Bretagne et on est tout seul à la maison. Et je peux vous dire que ça
y va.
Ça.
Vous allez en faire un troisième?
Non. Ah non, ben non, on a terminé.
Vous appelez vos enfants en vacances quand même?
Ben non, c'est justement, ils sont en vacances, je profite.
Ben oui.
Non, ben ma femme le fait, oui.
Elle prend des nouvelles tous les jours.
Ouais, j'avoue que je suis un peu moins.
Il te manque pas, en vrai?
En vrai?
Ouais.
Ben non, en vrai, non. Oh oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu fais quand tes enfants sont pas là que tu fais pas quand ils sont là?
C'est ça.
Bip. Il faut pas le dire à l'antenne à cette heure-ci.
Non, mais à part
non,
ça...
Non, mais le couple se retrouve, il faut dire la vérité. Quand il y a les enfants, ils sont là au milieu. Et quand il n'y a plus les enfants, on revit notre jeunesse.
On redécouvre toutes les pièces de la maison.
Voilà.
Mais ça veut dire quand tu as des enfants, tu n'as plus de vie, en fait.
Voilà,
c'est plus compliqué quand même. Ils peuvent surgir à tout instant.
Oui, d'ailleurs, Mickaël, tu veux pas d'enfants, toi?
Non, moi, je suis encore à l'entraînement, moi.
Ah
je
ouais
m'entraîne à la
non,
conception.
Non, mais sérieusement, non.
Il tire à blanc, si, bien sûr. Si, si, si. Oula. Si, si, quand je vois votre bonheur, là. Je vous envie. Hein.
Alors, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Mickaël?
Le devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Ce samedi, c'est la finale de la Coupe de France Rennes contre le PSG. Un match suivi en direct dans Europe 1 Sport. Et bien, vous devrez deviner des personnalités qui sont fans de foot. Grâce à Europe 1, tentez de gagner vos vacances en famille avec VVF Village. Un séjour d'une semaine pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Vous pourrez choisir le VVF Village qui vous ressemble parmi 90 destinations authentiques en France. Vous retrouverez petit et grand autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur des lacs. Vous rencontrerez des gens sympas, partagerez des bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions avec VVF Village. Plus d'infos sur vvf-village.fr.
Mais faut avoir 2 enfants, quoi.
Ah, toujours cette dépendance aux enfants.
Il faut avoir un conjoint aussi.
Bon, enfin, on peut y aller avec des amis.
Ah bon, avec VVF Village, ouvert à tout le monde.
Si t'es ami avec 2 enfants.
On joue avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour Stéphanie, vous avez 37 ans, vous habitez à Tours, vous occupez de gestion de sinistres automobiles.
Wow. Oui.
Sympa. Vous écoutez l'émission très régulièrement. Et quel est votre chroniqueur préféré?
Jean-Philippe Vigny.
Ah bon?
Comment?
Je les aime tous. J'ai une préférence pour Léa et Jean-Philippe. Et
quel bon
Mika
choix.
Aussi, j'aime bien.
Merci. Ah, ça fait plaisir. Pour le moment, place dans l'émission.
Ça me fait plaisir.
Excusez-moi, stop. C'est un dépucelage. C'est la première fois qu'on me préfère. Ah.
Non, elle a dit je l'aime bien. Attends, faut pas pousser non plus.
Pardon.
Alors, vous êtes mariés depuis 1 an, en couple depuis 2 ans. Vous l'avez rencontré au travail. Il avait un sinistre automobile aussi?
Non, c'est mon collègue.
Ah.
Donc vous vous supportez à la maison maintenant comme au travail?
Voilà, exactement.
Et alors dès que vous l'avez vu au travail, il y a eu un coup de foudre ou c'est venu petit à petit?
C'est venu petit à petit.
Petit à petit.
C'est lui qui vous a dragué ou vous?
Les deux, je pense.
Ben oui.
Ouais. Et ça s'est passé combien de temps après votre rencontre, la concrétisation?
Ça a été rapide, je crois, 1 mois.
Ah oui.
Faut pas perdre de temps.
Ah bah non, faut pas perdre de temps. Et là, en 2019, votre objectif, c'est de perdre 10 kilos?
Oui.
Ah. 10, c'est pas rien quand même, Stéphanie.
On va dire 3 kilos par mois, ça va vite. C'est une histoire de 3 mois.
3 kilos
rapide.
Par mois, c'est beaucoup. Hein.
Vous avez commencé.
Ça s'appelle une grève de la faim. Hein.
Oui, j'ai commencé déjà.
Et vous avez perdu combien?
Alors,
elle a perdu la motivation.
Non, j'ai pas perdu la motivation, justement, j'ai perdu 4 kilos déjà.
Wow, c'est vachement bien. Et c'est quoi comment vous faites?
Elle mange moins.
Deux fois par semaine. Alors, comme vous disiez, de la natation, on est super avec le bonnet, les palmes et tout. La totale. Donc voilà, je fais de la nage avec de la palme, de l'aquabiking et brasse. Et je fais cours de RPM, vélo en salle.
Ah ouais,
et,
RPM, c'est footing. Quoi?
C'est du vélo, c'est du vélo rapide.
C'est du vélo sur des musiques.
Très cardio.
Pour monter le rythme, très cardio. Wow. Avec un prof et on est une vingtaine. Et puis voilà, ça, très, très intense, c'est très bien.
Dis donc, il faut être motivé. Hein.
Bravo Stéphanie. Alors vous allez jouer avec qui?
Je vais jouer avec Léa.
Ok.
Donc alors, ce sont des personnalités qui sont fans de foot. Attention.
Attends, vous voulez la liste 1 ou la liste 2?
Oui, la liste 1 ou la liste 2?
Alors, je suis nulle en foot, on va dire au hasard la liste 2.
Allez.
Mais ce sont pas des personnalités, c'est pas des footballeurs, c'est pas du foot, hein. Aiment le foot.
Ouais.
Attention, ouais. Top chrono.
Il présentait qui veut gagner des millions?
Jean-Pierre Foucault.
Oui, elle présente 50 minutes inside avec Nikos.
C'est Virginie.
Non, Kétier, mais son prénom.
Virginie Fira.
C'est pas grave. L'ex-président de France avant Macron.
Hollande.
Ouais. Elle, c'est la femme de Jamel Debbouze, une journaliste très belle.
Mélissa Turo.
Ouais. Lui, il a écrit Mon millésime, Lucille, un chanteur, piano, un peu chaud.
Mon millésime, Pascal Obispo.
Oui. Lui, c'est un chanteur aussi, il a repris tous les titres de Claude François, Jean-Jacques Goldman. Un jeune, tatoué.
Matt Pokora.
Oui. Lui, il joue avec.
Pas mal.
Dommage pour Sandrine Quétier.
Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Ouais. C'est Sandrine Quétier et pas Virginie Quétier.
Moi j'en ai que 5. Hein.
Ah, j'ai tout mélangé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 bonnes réponses. Mélissa Torio, vous avez un petit peu écorché son nom, mais on vous l'accorde. Et bon, Sandrine Quétier, par contre, on ne vous l'accorde pas. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses.
C'est, 5. Ouais, c'est pas mal, Stéphanie.
C'est pas mal, hein, oui, Stéphanie. On va voir comment se débrouille Sylvain. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Anne.
Bonjour.
Vous avez 45 ans, vous êtes entrepreneur dans le 78.
C'est ça, à Bailly.
Et vous nous appelez depuis...
À Bailly.
Oui,
c'est vrai. À Bailly, oui, comme Jean-Philippe.
Ouais, ouais. Vous habitez où, à Bailly?
Et j'habite à résidence Allée de la Roseraie.
D'accord.
Et alors, vous avez déjà croisé Jean-Philippe Vizini à Bailly?
Jamais.
Vous l'avez croisé sobre?
Comment s'appellent les habitants de Bailly?
Des Baillacois.
Des Baillacois.
Et vous écoutez notre émission tous les jours?
Baillacois. Et j'écoute toujours comme je travaille à la maison.
Ça sent le début d'une embrouille.
Tous les jours, d'accord.
C'est marrant, on dirait le début d'une embrouille. Baillacois,
il n'y a rien, bah alors.
Vous savez, à Bailly, quand il y a de la fumée qui sort d'une maison, c'est le barbecue de Jean-Philippe.
Je suis désolé pour la fumée.
C'est ça.
Je vous invite à manger une saucisse.
Bon, Sylvain, vous jouez avec qui?
Bien, c'est là l'invitation.
Alors, j'ai joué avec Jean-Philippe, bien sûr.
Ben oui,
entre Baillacois.
Normal.
Il y a combien d'habitants dans votre bled là?
4000.
2
4000, ouais, 4-5000.
On est 4000, ouais. Mais on a un super rue, hein.
Ah ouais.
Ah bon, on n'est pas comme ça, bah oui.
Avec les acras de morue, il y a le super.
Exactement, le stand créole à l'entrée. Bah oui,
voilà,
on est entre nous. Là.
Vous allez vous dire si on vous dérange. Ouais, là. Ça se trouve, vous vous êtes croisés plein de fois sans le savoir.
Et le petit marché de Bailly tous les samedis avec les frites qui sont super bonnes.
Mon Dieu, que vous êtes chiant.
Non, mais l'autre, il connaît tout. On dirait qu'il se présente aux élections.
Là, on va gagner. Là.
Bon, alors vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Sylvain, Jean-Philippe?
Ouais.
Attention,
allez, prêt,
des personnalités qui aiment le foot, top chrono.
L'ancien président de la République, le mari de
Cavalier.
C'est Bébel, le professionnel, Picou Voyou. Ok, c'est la femme de David, le DJ. La femme de David, c'est...
Je sais pas.
Ok, il chante Qui a le droit à la place des grands hommes?
Bruel, Patrick Bruel.
Ok, c'est l'acteur dans Intouchables.
Omar Sy.
Ouais. C'est la femme de Domenech. La femme de Domenech, elle présente le foot.
Estelle Denis.
Ouais, il s'est présenté pour le PS aux élections présidentielles les dernières.
Manuel Hamon.
Ouais.
Hamon.
C'est la femme de François Pinault, une belle femme. C'est...
Passe.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Non, 5, 5.
Pourquoi ça?
Je suis désolée, tu dis Bébel pour faire deviner Belmando, c'est de la triche.
Oui, c'est un petit peu...
D'accord. Donc,
non, oui, mais Bébel...
Bah, il y a 5 bonnes... Bah
oui,
alors, attendez. Déjà, vous n'avez... Stop, taisez-vous. Vous n'avez pas trouvé Salma Hayek, la femme de François Pinault. Cathy Guetta, la femme de David Guetta. Bon, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Bah, mais si. Oui, mais Belmondo.
Il a dit Cathy Guetta.
Bah, Belmondo.
Moi, je dis Belmondo, c'est...
Voyou, le professionnel.
Moi, si j'étais huissier de justice, je n'accorderais pas Belmondo.
Non, mais Léa, bon. Bon, écoutez, on va vous départager tous les deux. Voilà, je crois que c'est
le public, vous êtes d'accord?
Oui, parce que là, c'était quand même un peu, voilà.
Bah,
C'était serré. Vous êtes prêts, Stéphanie, Sylvain?
Je suis prête.
Oui.
Vous m'êtes tous les deux très sympathiques. Alors, j'ai envie que vous gagniez tous les deux, mais bon, il n'y a qu'un seul qui peut gagner.
Alors, donc, ce sera le plus rapide.
C'est un acteur qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il joue un des beaux frères. Il est dentiste dans le film. Non, il n'est pas dentiste. Sa femme est dentiste. Lui, il ne gagne pas d'argent. Il a une société. Il fait des sketchs comiques. Il est très brun. Il est très drôle.
Harry Habitat?
Oui!
Oh ouais.
Stéphanie, vous avez gagné!
Bravo!
Ah, merci! Je suis contente. J'ai une montée de stress là. Ça fait du bien.
Stéphanie, grâce à... Alors, vous avez gagné vos vacances en famille dans le VEF Village qui vous ressemble parmi 90 destinations authentiques en France. Vous retrouverez petits et grands autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs. Plus d'infos sur vvf-village.fr. Bravo Stéphanie.
Oh,
bravo
Stéphanie. Merci beaucoup.
Un cri de joie. Un cri de joie, Stéphanie.
Oui.
Oh là là.
Pour jouer avec nous, laissez un message et vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Laurent Barra, Mickaël Quiroga et Jean-Philippe Vizini qui nous racontera sa nuit aux urgences.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Laurent Barra, Mickaël Quiroga. Michael Quiroga, vous m'avez vu hier à l'Olympia.
C'était, oh là là.
Et depuis, vous ne me voyez plus pareil.
Non, franchement. Non, déjà là-bas, je vous ai vu plus petite parce que j'étais loin.
Vous m'avez vu plus mince aussi ?
Plus mince aussi parce que j'étais loin.
Oh.
Et puis, mais une vraie présence, vous envoyez du lourd, comme on dit, vraiment. Ça dure 2 heures, c'est non-stop. On a l'impression que ça dure, une heure. C'est vrai. Il y a même des gens qui ont dit on se fait rembourser, c'était court quand même. Donc, une vraie présence, une vraie leçon.
Et j'ai vu,
aussi.
Alors, dans la loge, j'ai vu le frère de Michael qui regarde.
Ah, alors, le demi-frère, c'est pour ça qu'il
est tout blanc. Il est un peu blanc quand même. J'ai pas osé le dire en le voyant, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre.
Non, c'est pas une maladie.
Je pense qu'il doit s'en douter aussi.
On lui a appris la semaine dernière, ça lui a fait un choc.
C'est ton petit frère ou ton grand frère ?
C'est mon petit frère, il est venu avec sa femme. Voilà, ils ont adoré, sa femme est fan de vous. Elle s'habille comme vous. Dès que vous avez arrêté de vous habiller en rouge, elle a arrêté de s'habiller en rouge.
Ah ouais ? Moi, j'aurais voulu vous voir avec une femme, Michael, hier.
Mais c'est quoi cette histoire ? Vous voulez me choper ou quoi ?
Mais non, c'est par curiosité humaine.
Pour voir si t'as du goût ou si elle en a.
Mais quel genre de femme ? Tout ça, on sait rien, c'est un mystère.
Je peux vous dire que c'est une rousse, déjà.
Parce
que je craque sur les rousses, moi.
Et son prénom ?
Ah non, je vous le donne pas. Je vous donne un renseignement par an, c'est tout. Voilà. C'est une rousse l'année prochaine.
Et à quel âge ?
Un renseignement par an.
Oh là là.
Elle va rien lâcher. Hein.
Non, c'est
elle pourrait venir à l'émission dans le public.
Oui, mais non.
C'est madame qui est un peu rousse, madame.
Ah.
Non, c'est pas madame, non. Hein non, elle viendra dans le public. Non, elle viendra pas dans le public.
Pourquoi ?
Si elle est là, je ne peux pas.
Pourquoi ?
C'est la seule personne devant qui je ne peux pas jouer.
Elle te fait perdre tes moyens ?
Carrément.
Mais ça, c'est mignon.
Je peux jouer devant ma mère, devant la police, devant le juge, devant elle, je ne peux pas.
Ah ouais ?
Et ça fait combien de temps ?
Ça fait un renseignement l'année prochaine.
Il veut rien lâcher.
J'allais y arriver.
Non.
Ça fait quoi ? 3 mois ? 6 mois ? 1 an ? 2 ans ?
Non, je le dirai pas. Ça, vous pouvez me frapper.
Mais pourquoi ?
Me menacer.
Qu'est-ce que ça change de savoir la durée ?
Parce que comme ça, vous vous intéressez un peu à moi, tu vois.
Ah ouais ?
Ouais.
Et c'est elle qui t'héberge dans le 16e. C'est pour ça que je pense qu'il habite dans.
Il habite chez cette femme dans le 16e, chez cette femme rousse.
Ah, c'est une femme plus âgée.
Mais non, mais pourquoi c'est pas. Pourquoi
c'est ça,
pas
en fait ? Bah oui.
C'est ça, ouais, j'habite chez une
I'm
vieille.
Just a gigolo. La, 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 la.
J'habite
la,
chez une vieille dans le 16. Et voilà, et je lui fais plaisir pour payer le loyer. Non, mais ça va dans vos têtes. Vous êtes parti où là ?
Bonjour Philippe Vizini. Arrêtez de faire des.
Just a gigolo.
Jean-Philippe Vizini, oui. Les urgentistes des hôpitaux de Paris sont en grève et vous les soutenez.
Oui, bien sûr, évidemment. Les médecins urgentistes sont en grève car ils considèrent qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils réclament la création de 700 postes supplémentaires et franchement, on est tous d'accord pour dire que ce ne serait pas du luxe, hein ? Eh ben, cachez votre joie ! Moi, une fois, j'ai passé la nuit aux urgences parce que je croyais que j'allais mourir. J'ai appelé les pompiers, ils m'ont amené aux urgences, ils m'ont fait un électrocardiogramme et en fait, j'avais rien du tout. Mais avant de me laisser repartir, fallait quand même que je voie un médecin. Donc, ils m'ont parqué sur un brancard dans un couloir et j'ai assisté toute la nuit au spectacle des urgences. À côté de moi, il y a un mec qui arrive sur un brancard, un infirmier antillais qui devait faire au moins 2 mètres de haut, qui lui mettait des gifles dans la tête comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous lui mettez des gifles ? Qu'est-ce qu'il a ce garçon ? Il dit, vous inquiétez pas, on est en train de le réanimer, après on s'occupe de vous. Je dis, mais prenez votre temps. Sur le brancard d'à côté, un autre mec entouré de toutes les plus belles infirmières qui lui faisaient du bouche à bouche. Je demande, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? On me répond, la même chose que l'autre, sauf que lui, il a une bonne mutuelle. D'accord, aux urgences, le personnel est là pour te rassurer. Hein. Un gars sort du bloc opératoire, le chirurgien vient le voir. Bon, on vous a amputé des 2 bras et des 2 jambes, mais j'ai une très bonne nouvelle. On a réussi à revendre vos chaussures et votre montre sur le bon coin. Aux urgences, il y a des médecins qui restent bossés pendant plusieurs jours de suite sans rentrer chez eux. Il y a un docteur qui m'a dit « J'espère que j'ai mis assez de sous dans le parc-mètre, j'ai peur de me prendre une amende. » Je lui ai dit « Vous avez mis combien ?» Il me dit « J'ai mis 10 francs. » Je lui ai dit « Mais ça fait combien de temps que vous êtes là ?» Bref, il est 8h du matin, je vois enfin un médecin qui finalement me dit que tout va bien. Pour moi, tout allait bien, mais pour eux, c'est la course toute la nuit. Alors, urgentiste, si vous nous écoutez, battez-vous jusqu'au bout. Moi, je suis avec vous. Voilà. On lâche rien.
On parle beaucoup, beaucoup de la pollution. Et il y a un canard que vous avez demandé à réécouter. C'est une Américaine et son mari a voulu nager dans la Seine. Il a des petits problèmes.
Oui.
Bienvenue à la mairie du...
Bonjour.
J'ai un problème, madame. Je suis Américaine.
Oui.
Et je suis sur le quai de la Seine.
Et mon ami, il veut se baigner dans la Seine.
Bah écoutez, c'est interdit, hein. Si on le chope, il peut avoir une amende.
Ah ça y est, il saute dans... Non, oh là là.
Il saute dans la Seine.
Ça y est, il est dans la Seine.
Mais c'est pas fait pour se baigner, la Seine. Hein.
Oui, qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, vous appelez les pompiers, s'il insiste, écoutez, il peut attraper des maladies. C'est strictement interdit d'aller se baigner dans la Seine.
Je l'appelle, mais vous me dites c'est interdit.
Et pourquoi il crie? Qu'est-ce qui se passe?
Oh, il y a une écrevisse qui lui mord l'épaule.
Attendez, je vais appeler mon responsable d'équipe.
Si vous estimez que l'attente est trop longue...
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je l'appelle parce que je suis au bord de la Seine.
Oui.
Et mon ami, il a été dans l'eau.
Oui, mais c'est strictement interdit, ça.
Oui, mais c'est pas marqué, monsieur. Hein. Et maintenant, il a des plaques rouges.
Là, ce que vous essayez de faire, s'il y a des plaques, c'est de vous rendre soit aux urgences d'un hôpital, soit...
Qu'est-ce que j'ai pu le mettre sur le pot avec les plaques?
Ah ouais, mais je sais pas, je suis pas
mais
médecin.
Mais pourquoi
madame.
Dans la Seine, on a des plaques rouges?
Madame, les eaux de la Seine, c'est des eaux qui sont pas très propres non plus. Hein.
Oh, il a des pustules. Mais pourquoi vous nettoyez pas ça?
Madame, la Seine est un fleuve. Si on devait nettoyer complètement la Seine, là, on s'en sortirait pas. Hein.
Jim, est-ce que tu es OK, Jim? Are you OK? Ouais, il est pas bien, là. Il a vomi.
Le mieux, c'est de raccrocher, madame, et puis de composer le... le mieux, là, c'est de raccrocher, de composer le 18, d'appeler les pompiers.
Non, je veux pas appeler les pompiers parce que je veux pas aller en prison parce qu'on n'a pas le droit.
Mais il ira pas en prison pour ça. Votre mari se sent pas bien parce qu'il a été se baigner dans la Seine.
Ouais.
Là, vous raccrochez le téléphone avec moi. Vous composez le 18 de façon à appeler les pompiers.
Non, je l'appelle pas la police. Ça.
Je vous ai pas parlé de la police, madame, je vous parle des pompiers.
Excuse-moi, mais pourquoi c'est tellement sale? Les gens, ils font pipi ou quoi ?
Madame, il y a les égouts qui vont dans la Seine.
Oh, il aurait pas dû. Hein.
Donc,
Jim, you shouldn't go to the water. Mais il est très douillet aussi. Hein.
Donc, vous raccrochez le téléphone avec moi, vous faites le 18, vous appelez les pompiers.
Et combien je paye?
Là, après, il faut voir avec l'hôpital, madame.
Bah oui, mais je n'ai pas les sécurité sociale. Oh. Je peux pas donner votre numéro de sécurité sociale?
Non. En plus, il faut une carte particulière, donc...
Bah, je peux venir chez vous chercher la carte.
Oui, bien sûr, madame. Bon, sur ce, madame, je vous ai donné les informations. Vous composez le 18 et des pompiers vont récupérer votre époux.
Mais je sais pas, peut-être je le laisse là, parce que vous savez...
Écoutez, faites ce que vous voulez,
il
madame.
Il me faisait un voyage d'amour à Paris et vraiment, il m'énerve. Je me demande si je veux pas mieux partir avec un Français comme vous, par exemple.
Oui, bien sûr. Alors, madame, je crois qu'on va arrêter là la conversation. Et voilà, vous appelez les pompiers. Bonne journée à vous.
Je vous laisse mon nom, monsieur. Je n'ai pas dit mon nom.
D'accord.
C'est Anne Roumanoff.
Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que vous conseillez de faire, c'est d'aller voir un médecin. Hein.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Mickaël Quiroga, Laurent Barra, Léa Londo et notre invité, le comte de Bouderbala, actuellement en spectacle au théâtre Le République à Paris.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Laurent Barra, Jean-Philippe Vizini. Et notre premier invité qui est un ancien basketteur pro qui a quitté les parquets pour les planches où il dribble avec les mots et dunk avec les vannes. Dans la famille du stand-up, c'est un parrain qui a écumé les comédie clubs new-yorkais avant de faire rire plus d'un million de spectateurs avec son premier spectacle en France. Il revient avec un deuxième spectacle judicieusement intitulé Comte de Bouderbala 2. Faites du bruit pour le Comte de Bouderbala.
Avec un accueil formidable, merci à vous. Bonjour la France.
Alors, vous vous appelez Samy ou le comte de Bouderbala? Comte de Bouderbala.
Bon, on va rester simple, appelle-moi le comte, Anne, on est entre nous. Tu sais que t'es de plus en plus belle.
Ouais.
Moi, je vais y aller,
comment il a changé de sujet?
On t'a saoulé avec ça, j'imagine, non?
Mais non, ça me fait plaisir. Je préfère mieux qu'on me dise que je suis de plus en plus belle que de plus en plus moche.
Bah ouais, surtout qu'elle y travaille dur, donc ce serait quand même dommage.
Il y a une équipe de 50 personnes.
Et en même temps, je partais de loin aussi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, vous êtes actuellement au théâtre Le République, le comte de Bouderbala, 27-30 avril, premier. C'est un théâtre que vous avez acheté en plus? Vous êtes propriétaire?
Semi-propriétaire, j'ai une fenêtre. Hein. C'est tellement cher, les théâtres à Paris, on s'est endetté sur 16 générations.
Non, c'est vrai.
Mais bon, le mec n'a pas d'appart, mais il a un demi-théâtre. Il fait tout à l'envers. Non, j'y suis en résidence. Hein. Donc,
alors, vous avez un succès incroyable, le comte de Bouderbala, parce qu'on vous voit très peu à la télé. on vous voit peu, on vous entend peu à la radio. Et vous cartonnez sur scène depuis des années, vous remplissez non-stop les salles.
Bah, je fais confiance au public, hein. C'est pour ça, dès que je passe dans les médias, j'essaie de, bah, de les remercier, parce que voilà, ce métier, c'est le public qui nous a choisi, qui décide de venir ou pas venir. On a beau les matraquer parfois en télé, en radio, ils viendront pas, c'est, faut essayer
alors
de les convaincre sur scène.
Alors que vous, ils viennent, ils reviennent, ils re-reviennent.
Mais parce qu'on leur donne de l'oseille à la sortie, c'est sûr. C'est pour ça.
Non, bah, je vais venir,
sinon,
moi.
Ils en auraient rien à foutre de ma gueule. Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Alors, vous êtes un ancien basketteur pro, et vous êtes reconverti de sportif à comique, ça a dû être dur, la reconversion.
Bon, bah, déjà sur le terrain, j'étais une blague, hein, sur le terrain. Un mètre cube, un seul basketteur d'un mètre cube, j'avais toujours été le plus petit de mes équipes, donc c'était pas difficile. Mais bon, après, il y a beaucoup de similitudes, hein, sport et humour. Dans le spectacle vivant, on met aussi beaucoup la main au panier. Ha ha ha! Et puis voilà, hein, c'est tout pour moi. Je suis en spectacle du public. Je serai à Nantes vendredi. S'il y a des Nantais dans le secteur, n'hésitez pas, on est à la Cité des Congrès à Nantes. On vous accueille.
Alors, vous avez été aux États-Unis et ça vous a marqué, les Américains, leur audace, leur manière d'être ?
Forcément. Bah, moi, j'ai eu la chance d'être sauvé, entre guillemets, par un programme d'échange universitaire franco-américain qui s'appelle la MICEFA. Donc, je fais la promo en même temps. Si vous avez des enfants qui étudient à la fac française, vous pouvez les envoyer là-bas à moindre frais. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 40 000 dollars l'année scolaire américaine, vous payez 400 euros. Et donc, moi, ça m'a sauvé.
C'est pas pour tout le monde, quand même. Parce que
il faut juste postuler.
Moi, le mien, il est en CM1, je peux l'envoyer quand même ou pas?
Bah, vu le niveau de l'école française ces temps-ci, tu peux y aller. Hein. Donc
à 18 ans, on vous repère parce que vous jouez au basket, on vous propose.
Pas du tout. En fait, les mecs, moi, j'ai eu une succession de déclassements en France sportifs. C'est-à-dire que j'ai commencé à 20 ans en deuxième division. De basket. À 22 ans en troisième, à 24 ans en quatrième, à 25 ans en cinquième. Donc j'étais en toboggan de loose sportive. Et je me suis dit à un moment, bon, on va falloir essayer de sauver le destin, tu vois. Et j'ai fait ce programme, j'ai postulé pour ce programme d'échange universitaire. Je me suis retrouvé à l'université du Connecticut. Et par le biais d'une rencontre, j'ai fait des essais avec l'équipe de l'université qui était championne en titre. Et je me suis retrouvé dans l'équipe.
À jouer devant des stades de 50 000 personnes.
Des stades.
Jet privé.
Madison Square Garden, incroyable. Jet privé. Moi, j'avais l'habitude des gymnases qui puaient la pisse, hein, en banlieue parisienne. Ça a changé ma vie. Mais c'est surtout ça, c'est ce qui m'a poussé à raconter cette histoire dans le premier spectacle. Et moi, à la base, j'étais pas du tout parti pour faire le clown, ce que j'adore faire, bien sûr, ce que je respecte, mais c'était pas du tout mon objectif. Moi,
en plus,
c'était
quand vous avez passé un an aux États-Unis et que vous revenez à Saint-Denis, c'est la déprime totale.
Ah ben là, je t'explique. Quand tu rentres,
quand t'es niveau jet privé Saint-Denis, c'est pas ouf. Hein.
Là, c'est plus jet 27. Là, mais tu rentres, t'es aux États-Unis, t'es dans des conditions exceptionnelles, tu rentres à Saint-Denis, et puis moi, c'est spécifique parce que j'habite pas en cité à Saint-Denis, j'habite le petit pavillon entre les cités, mais rue de la Mort, ce que je dis dans le spectacle, c'est-à-dire face à l'hôpital de la Fontaine, ma fenêtre de chambre qui donne sur la morgue, 60 mètres plus loin, foyer de personnes âgées, mais véridique, 10 mètres plus loin, hôpital psychiatrique en face d'un distributeur de seringues pour toxico, et j'ai grandi au-dessus des pompes funèbres au numéro 13. Mais c'est véridique, c'est pas un sketch.
Hein. Et ça va comment le moral
t'as envie de te foutre en l'air chaque matin, mais ouais. c'est une belle métaphore de la vie, parce que tu te réveilles, tu dis, il faut kiffer, il faut rigoler, et puis t'es que de passage, donc faut pas se prendre au sérieux, il faut essayer d'aller au bout de ses rêves si on peut en avoir quelques-uns.
Vous dites qu'aux États-Unis, ce qui vous a frappé, c'est qu'on dit aux gens qui sont des champions, on les félicite quand ils ont des bonnes notes, on les valorise. Alors qu'en France, c'est pas ça.
C'est pas comme
surtout ici. Surtout ici.
Oui, c'est vrai, c'est la méthode américaine.
Juste, c'est con, mais regardez juste la remise de la cérémonie de remise des diplômes aux États-Unis. C'est le chapeau, c'est l'hymne national américain, la toge, les parents qui viennent, c'est exceptionnel. En France, tu reçois une enveloppe avec ton nom, ton timbre et même ton écriture sur l'enveloppe et tu vas chercher ton truc à la poste, c'est la loose totale. C'est le problème-là. C'est pour ça qu'on peut arriver à changer ces choses-là, c'est juste de la volonté. Parce qu'aux États-Unis, je voyais, on disait aux gens, vous êtes géniaux, mais c'était des bourricots les mecs. Et ils se levaient, ils donnaient leur avis, ils prenaient la parole.
Alors on les met en confiance.
On les met en confiance. Nous, on n'arrive pas à faire ce truc-là. Alors maintenant, c'est à la mode, le truc de l'éloquence, de oui, on prend la parole et tout. Mais ça, on l'a toujours eu. Et il y a énormément de génie de l'oral dans notre pays. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blagues ce matin. Mais le spectacle,
c'est
le spectacle est plus sympathique.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, le comte de Bouderbala, qui fait un carton au théâtre Le République avec son spectacle Comte de Bouderbala 2. Allez le voir sur scène. On revient dans quelques instants, ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec notre invité, le comte de Bouderbala, actuellement au théâtre Le République
et
à Paris.
Et en campagne électorale.
Avec son spectacle, le comte de Bouderbala 2.
En tournée partout en France. À Nantes, vendredi, c'était des congrès. Venez les amis, on est en galère.
Au moins, c'est clair. Mais ça va aller, la cité des congrès.
Non, c'est génial, le public nantais exceptionnel.
Alors, vous êtes amis avec Grand Corps Malade. Magnifique. Depuis l'âge de 11 ans.
Ouais, bon, on est des amis d'enfance, là, ces tensions. Je sais pas ce qu'il devient, mais j'espère qu'il va bien. Mais on a grandi ensemble à Saint-Denis. On s'est rencontrés sur les terrains de basket à l'époque. Et puis, on a évolué ensemble par le biais d'un groupe d'amis. Voilà, on était cinq amis, cinq copains, dont un autre acteur, qui est Jackie Ido, un autre qui est ingénieur, Brahim, et un autre, malheureusement, qui nous a quittés. Mais une équipe de copains et puis qui grandit sur les terrains, qui écrit, parce que nous, notre passion aussi, c'était de jouer au basket et d'écrire. Donc, on a monté des petites scènes de théâtre. Après, on a bifurqué au slam.
Voilà. Donc, quand il fait l'Olympia, quand Cormade, il vous fait faire sa première partie. C'était votre premier Olympia?
Bah ouais, forcément, moi j'arrivais de nulle part. On m'offre une première partie, tu dis merci mon ami, merci mon copain.
Et c'était très bien déjà, je vous ai vu.
Exceptionnel. Mais le truc, c'est que c'était l'aventure qui était exceptionnelle. C'est-à-dire débarquer de Saint-Denis, jouer dans des bars à Paris, à Saint-Denis.
Vous aviez slamé vous aussi?
Ouais, mais j'étais une merguez en slam. J'étais hyper, ultra dépressif parce que j'avais fait beaucoup de mimétisme. Quand on découvre un art, ouais, on fait beaucoup de mimétisme sur les premières personnes qu'on a vues. Donc moi, j'avais vu des mecs ultra deep, ultra profonds, dépressifs, mortuaires, lugubres. Je me suis dit, c'est ça le slam.
Ça donnait quoi, Comte de Bouderbala, qui faisait du slam?
C'était de la merde, Anne. En fait, je parlais de problèmes qui me touchaient, mais qui ne me touchaient pas. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis dans le spectacle par le biais des blagues, je le traitais, mais très sérieusement. Donc j'étais très relou.
Vous êtes sérieux. Hein.
Ouais, c'est chiant. mais surtout, parce que moi j'adore la rigolade. Et après, j'ai bifurqué du slam au stand-up. Parce que je comprenais pas qu'on pouvait aller sur scène, déconner avec les gens, mais juste en leur parlant comme ça à la première personne.
Comte de Bouderbala, Mickaël Quiroga a des choses à vous dire.
Alors, bonjour Samy.
Bonjour Mickaël.
Ou plutôt bonjour monsieur, hein, puisqu'il y a un compte, il convient de dire monsieur. Je suis ravi de vous voir. Je suis toujours un petit peu fébrile, moi, quand je reçois quelqu'un dont j'apprécie le travail. Alors, quand je fais une chronique, j'aime bien essayer de trouver des points communs avec l'invité, avec vous. J'avoue que c'était plutôt facile. Vous venez de banlieue du 9-3, je viens de banlieue du 9-3. Vous avez fait du basket, j'ai fait du basket. Vous êtes humoriste, je suis humoriste. Vous remplissez les salles, vous remplissez les salles. Voilà. Comte de Bouderbala, ce que l'on sait, c'est que vous lâchez rien. Votre première passion, vous l'avez dit, c'était le basket. Vous êtes battu, vous êtes parti pour la Mecque de la discipline. Les USA, et là, franchement, c'est respect. Non, franchement, c'est respect, c'est le top, c'est la crème de la crème, le gars, parce que réussir à jouer au basket aux États-Unis, c'est comme aller faire du karaté au Japon, tu vois, c'est comme aller faire du flamenco en Espagne, c'est comme aller faire du blanchiment en Suisse direct, quoi. Et franchement, je sais pas si vous réalisez les gens, mais la prouesse qu'a réalisé le comte de Bouderbala, parce que quand on est plutôt petit, plutôt blanc, et qu'on va faire du basket aux États-Unis, c'est un peu comme être grand, noir en intérim et chercher un appart à Paris, ouais, c'est super chaud. De plus, il faut savoir que le basket requiert énormément d'adresse, hein. Je crois que c'est le seul sport de balle avec le golf où la balle fait la taille du but, hein, quasiment. Et moi, ça m'a toujours étonné de voir que des golfeurs, par exemple, mettent la balle dans le trou à 200 mètres en 3 ou 4 touches, alors que Giroud en 15, à 10 mètres, il a du mal.
Laisse Giroud tranquille.
Fous-lui la paix, bon sang.
Mais il marque pas.
Je regarde pas la télé.
Comte de Bouderbala, vous avez réussi à jouer au basket en France, entre autres à Levallois, ville célèbre pour le basket. Vous avez joué aussi à Poissy, ville célèbre pour sa prison. C'est marrant parce que Levallois-Poissy, c'est exactement le trajet que Patrick Balkany a peur de faire. Comte de Bouderbala, ça fait de nombreuses années que vous êtes sur scène. Vous avez joué votre premier spectacle pendant 8 ans. Spectacle pour lequel vous avez réuni 1 200 000 spectateurs. Ça aussi, c'est une prouesse. Parce que moi, par exemple, au rythme où ça va, avec mon taux de remplissage, pour avoir 1 200 000 spectateurs, il faut que je joue 1 200 000 fois. Quoi. C'est vrai que personnellement, je suis impressionné par la performance. Hein. Votre nouveau one-man show, c'est Comte de Bouderbala 2. Un spectacle qui évolue avec l'actu, l'air du temps. Ça parle d'amour, de mariage pour tous, de chansons françaises. On arrive même à rire avec des choses d'ordinaire plutôt anxiogènes. Et franchement, si vous aimez rire, le parler vrai, courez au théâtre de la République, parce que il a beau avoir un papa ébéniste, le comte de Boudherbala ne pratique pas la langue de bois. Eh, ça fait de nombreuses années que Samy fait des heureux et des heureuses sur scène. Le public ne s'y trompe pas. Samy a su faire des chiffres avec ses lettres, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le compte est bon.
Oh. Voilà, Michael. Ah, Michael, je t'invite.
T'as gagné une place.
Je viens.
Bah, c'est gentil, merci beaucoup.
Europe.
Merci le comte de Boudherbala d'être passé nous voir. On rappelle merci votre spectacle. Comte de Boudherbala du Haut Théâtre La République à Paris jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin. Et puis vous serez le 26 avril à Nantes, à la Cité des Congrès.
Jusqu'à la mort, Anne. Jusqu'à épuisement. Jusqu'à plus soif.
Merci beaucoup c'est d'être moi, passé nous voir. Dans quelques instants, c'est Marion Bertoli qui sera notre invité.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. 11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Mickaël Quiroga, Lalonde, oui, Laurent Barra, oui. Jean-Philippe Bizini et notre invité qui nous a fait rêver en finale de Wimbledon en 2007 puis en 2013, l'année où elle a décroché le titre. Première joueuse française, 7e mondiale en 2012 dans la patte d'Amélie Mauresmo et de Marie Pierce. Elle est une des grandes et seules françaises à avoir gagné au moins un titre en Grand Chelem.
Ouais.
Sensible et perfectionniste, cette grande tenniswoman au cœur tendre est aussi connue pour ses confidences et son parcours de vie atypique. Ce chemin épineux, elle a décidé d'en parler dans son livre Renaître, sorti hier chez Flammarion. Marion Bertoli va nous renvoyer la balle ce matin sur Europe 1. Bonjour Marion Bertoli.
Bonjour Anne Romanoff. Je suis une grande fan.
C'est vrai ?
Absolument.
Ah bah d'ailleurs,
j'ai regardé vos spectacles.
Ah
d'ailleurs, ouais, je me suis habillée tout en
rouge.
Absolument.
Donc, sympa.
Je regardais tous vos passages chez Michel Drucker. Ah.
C'est vrai ?
Très grande fan.
Ah bon ? Moi aussi, je regardais vos matchs, mais je ne sais pas jouer au tennis.
Alors, elle a déjà du mal à mettre des tennis, juste.
Si, c'est pas vrai. Alors là,
les vieilles tennis pourris.
C'est pas des tennis pourris, c'est extrêmement à la mode.
Mais vous courez pas avec. Mais vous courez pas avec.
C'est des tensions à l'élongation de l'isque jambier. Ça s'est vite arrivé.
C'est à la mode, mais de quelle année ? On sait pas encore.
Et de quel pays ?
Alors, votre. C'est à la mode.
Non, elle est tombée sur un bon vendeur, c'est tout.
Non, mais faut pas croire, Marion Bertoli, nous aussi on est fans.
Mais
hein,
mais la mode c'est cyclique, ça reviendra forcément.
Alors votre livre, Marion Bertoli, s'appelle Renaître, coécrit avec Géraldine Maillet, et c'est courageux, une championne de tennis qui raconte ses revers.
C'est beau. Ça commence pas.
Dans le milieu du tennis, on prend plus de coups droits ou des coups pas droits justement?
On prend un peu de tout. Oui, absolument. C'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Donc forcément, tous les coups sont un petit peu permis. Mais après, j'ai aussi voulu raconter l'après-tennis et tout ce qui m'est arrivé après ma carrière tennistique. Parce qu'effectivement, dans ce livre, il n'y a pas que la partie.
Vous êtes toute jeune en même temps. Vous parlez, vous avez 34 ans. On dirait que vous avez 70 ans.
Ah bah quand même. Quand t'as une carrière de tennis, t'as déjà une vie derrière toi.
Ça commence à faire. Ouais, j'ai 53 ans, moi. Je devrais dire quoi.
Il serait temps.
Non, mais 34 ans, vous êtes au cœur de la jeunesse de la vie, Marion Bertoli.
C'est beau, ça.
Ouais, je le ressens pas comme ça. Mais...
Vous êtes au cœur de la vie.
Le cœur de la vie.
Voilà, ils sont ça, bêtes.
Un collège portera votre nom un jour.
Non, mais quand
on
t'es.
Dirait un épisode
quand...
de Plus belle la vie. Non,
pour avoir ce niveau-là de tennis, tu commences tellement tôt.
Oui.
Quand
En fait,
on est déjà professionnel à 14 ans.
Ouais.
Donc, on a un métier à 14-15 ans. Donc, effectivement, les années pour nous, on a une maturité qui arrive nettement plus jeune. Donc, notre enfance, on la saute très rapidement pour passer à l'âge adulte et en étant responsable, en ayant aussi beaucoup de pression sur les épaules. Donc, tout ça vous fait grandir très vite. Et effectivement, dans ma tête, parfois, j'ai même 12 ans, mais la réalité, c'est que j'ai l'impression, en tout cas dans mon corps, d'en avoir 50. Donc, il faut trouver l'équilibre et c'est pas toujours évident.
Mais 34 ans, c'est
vous êtes au cœur de la jeunesse de la vie.
Décidément.
Ça va rester gravé en moi, ça.
Écoutez, à chaque fois que j'aurai un petit coup de mou, je vais me répéter sa phrase.
Au cœur de la jeunesse de la vie.
Au cœur de la jeunesse de la vie. Et un punch coco. Ouais, t'as envie de danser, quoi.
Non, mais elle va sortir un bouquin, tu sais, bientôt, t'auras Anne Romanoff, la biographie.
Au cœur de la jeunesse de la vie.
la vie.
Il y a Kazuke, il y a Kazuke.
On dirait une série, tu sais. Une série.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Non, c'est non, 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 non.
34 ans, c'est très très jeune, je vous assure. Moi qui ai 53 ans, je.
Ah, c'est au
ouais,
cœur.
Tu sais
la...
plus.
J'aurais bien aimé. Gringolade des morts vivants.
J'aurais bien aimé, quand j'avais 34 ans, savoir tout ce que je sais maintenant. Ça m'aurait. Tu vois.
Qu'est-ce que vous savez?
J'aurais été plus cool en fait.
Ça t'aurait fait gagner 20 ans, quoi. C'est ça, en fait.
J'aurais été plus cool, j'aurais plus profité, en fait.
C'est quoi l'âge moyen de la retraite au tennis? C'est environ 30 ans. Ça s'est un petit peu amélioré parce que il y a beaucoup plus de kinés, de soins que ce qu'on faisait nous à l'époque où c'était un peu plus à la débrouillardise. Ouais. Et puis voilà, on faisait un petit peu comme on peut. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Mais depuis ces quelques dernières années, donc effectivement, c'est pour ça que les joueurs ou les joueuses arrivent à repousser l'âge finalement. Mais ça dépend aussi de la performance. Et ça dépend du niveau auquel vous évoluez, entre jouer dans le top 10 et jouer les plus grands matchs, aller au bout des tournois ou perdre au premier ou deuxième tour. C'est pas les mêmes saisons non plus. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs, mais effectivement, on va dire qu'un âge moyen, c'est environ 30 ans.
Alors, Marion Bartoli, dans ce livre, vous racontez, je remonte des pentes depuis toute petite. Parfois, je glisse, parfois, je tombe, parfois, je me casse. J'ai même connu plusieurs brancards et réanimations effrayantes, mais je finis toujours par me relever et par remonter la pente. Vous avez beaucoup remonté la pente. En fait, vous êtes autant skieuse que tenniswoman.
Alors, si vous regardez mon niveau de ski, vous ne diriez pas ça.
Disons que on peut pas être bonne partout.
J'ai une détestation du ski en plus et du froid en particulier. Ah, je déteste le froid, déteste la neige, la sensation de glisse. Donc c'est pour ça que j'ai toujours détesté la terre battue. Donc effectivement, le ski, c'est vraiment pas pour moi. Mais oui, quand vous vous retrouvez à 41 kilos hospitalisé avec une sonde pour vous alimenter, effectivement, toucher plus le fond que ça, c'est quand même très très compliqué. Et là, vous avez beau avoir été au sommet à un moment donné dans un domaine, vous n'êtes plus rien, honnêtement.
Vous vous sentez seul au monde, quoi.
Totalement, totalement. Et puis vous êtes surtout à égalité avec la personne d'à côté qui est en train de vivre la même chose que vous, avec des parcours différents, mais on arrive à la fin au même résultat et il faut arriver à s'en sortir. Et c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à mettre un petit peu aussi son ego de côté et pas se dire « Ah non, mais j'ai quand même été une championne ou j'ai réussi des choses, pourquoi je me suis retrouvée là ?» Mais d'arriver à comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Et finalement, c'est aussi le sport qui m'a sauvée, parce que c'est en me raccrochant au marathon New York, en me disant « je vais sortir de l'hôpital, je vais faire le marathon New York » qui se paraissait
aux gens, faut
totalement
expliquer aux...
fou.
Il faut expliquer aux gens qu'à un moment, vous êtes anorexique, vous avez eu un chagrin d'amour aussi, avec un homme qui vous disait tout le temps que vous étiez grosse, c'est très sympathique.
Et pas que ça. Ouais. Le chagrin d'amour, je ne sais même pas, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais vraiment aimé non plus. Donc,
vous ne l'avez pas aimé?
Je pense pas.
C'était juste un connard, on peut le dire.
C'est vrai.
Vous l'avez dit, le grand connard dans le livre.
Ah ouais.
Oui, c'est vrai que je me suis lâchée. À l'époque, j'arrivais pas à le dire, ça sortait pas. Je me suis améliorée depuis.
Combien de temps avec lui?
18 mois.
Ah, et en 18 mois, il vous a détruite.
Ouais. Ouais, mais ça suffit. Hein.
Ça suffit. Hein.
À 18 mois tous les jours, effectivement, c'est costaud.
Donc, après cet homme, ça va pas du tout. Vous tombez dans l'anorexie. Après, vous attrapez un virus. Vous êtes au bord de mourir pendant plusieurs mois.
Oui, absolument.
Et là, vous vous relevez, encore une fois.
J'arrive à me relever. Alors, ça a été une combinaison de plusieurs choses. La première chose qui a été vraiment l'électrochoc pour moi, c'est quand je me suis retrouvée à Wimbledon, donc l'endroit effectivement qui m'a sacrée, où à chaque fois que j'y retourne, j'ai toutes les secondes passées de ce 6 juillet 2013 qui reviennent dans ma tête. Je me retrouve en 2016 là-bas, à peine 3 ans plus tard. Et on me refuse, les médecins me refusent l'autorisation d'aller jouer le tournoi des légendes, qui est vraiment quelque chose. Voilà, on se renvoie la balle, on est juste sur le terrain, c'est très très léger, c'est pas très intense.
Ils ont peur que vous ayez un arrêt cardiaque,
exactement.
Vous êtes faible.
Ouais. Exactement. Donc j'avais mon cœur qui battait plus qu'à 38 pulsations par minute. J'avais une tension à 9,5. Donc,
Mais du coup, vous devez vous méfier des hommes maintenant, non?
Non, non, j'en ai retrouvé un bien.
Ah, c'est bien.
Il y en a quand même des biens.
Mais oui, il y en a des biens, bien sûr qu'on a des biens.
Par chance, à part très grande chance. Oui. Hein, franchement, je n'y croyais plus du tout. Hein. J'étais devenue vraiment très sceptique. Et ben non,
mais c'est qu'il s'en passe des choses au cœur de la jeunesse de la vie.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Marion Bartoli, venue nous parler de son livre Renaître. Le plus dur, c'est après la victoire, qui vient de sortir aux éditions Flammarion.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Mickaël Quiroga, Alain Lemieux, Laurent Barra, Jean-Philippe Bizini et notre invitée au cœur de la jeunesse de la vie. Elle a 34 ans, Marion Bartoli.
Je pense que les gens vont aller en librairie, vont dire il est où le livre au cœur de la jeunesse de la vie.
Ça doit être à côté de Premier Baiser.
Donc le livre s'appelle Renaître aux éditions Flammarion. Marion Bartoli, dans ce livre, vous évoquez à plusieurs reprises votre relation très forte avec votre père.
Oui.
Il était médecin, il a perdu sa maman quand il avait 2 ans et demi. Vous dites qu'il s'est construit tout seul parce que son père est parti ensuite.
Il y avait une situation familiale très compliquée, oui.
Et votre père était médecin. Quand vous étiez petite, vous l'avez accompagné, il vous a amené en visite, mais vous avez vu des trucs horribles très jeune.
Oui. Oui, absolument. Mon papa voulait effectivement me mettre devant les réalités de la vie. Et très jeune, ne voulait pas m'élever dans un cocon où je serais protégée d'absolument tout parce que fille du médecin du village, etc. Et maman qui me surcouvait.
Vous fait assister à des accidents de la route.
Dis donc.
Mais j'y allais avec un immense plaisir. J'étais, à chaque fois qu'il y avait le bip qui sonnait, les pompiers qui appelaient à la maison, généralement c'est moi qui décrochais le téléphone parce que maman était occupée à autre chose et papa était en consultation. C'est moi qui décrochais. Il me disait, il faut que tu préviennes ton papa, il faut qu'on parte en... Voilà, je prenais l'adresse, je notais l'adresse et puis je partais avec lui sur les interventions. Effectivement, je voyais l'hélicoptère, le SAMU, les pompiers.
Vous avez vu des trucs horribles quand même.
Oui.
Et alors
oui. Mais le plus horrible, vous savez, c'était même pas ça. C'était même pas les accidents de la route ou les interventions, on va dire, d'urgence. En fait, dans ce village-là où j'habitais en Haute-Loire, il y avait le plus grand centre européen des malades du sida qui n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir se soigner eux-mêmes. Et donc, mon papa allait les soigner bénévolement en leur apportant des médicaments et c'était le début de la trithérapie. Et en fait, je jouais avec ces enfants-là, parce qu'il y avait les enfants des patients qui étaient là, et je voyais leurs parents partir mois après mois et mourir et décéder. Et en fait, c'est ça qui vraiment m'a fait très tôt voir la mort en face et voir ce qu'était réellement effectivement à la fois la vie, à la fois les difficultés de la vie et le bonheur aussi d'être en bonne santé et de pouvoir en profiter au maximum.
Mais ça n'a pas dû être facile pour vous parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour faire toutes les compétitions de tennis même quand on est jeune. Donc pour avoir un mental fort, il faut être soi-même fort et pas être trop sensible. Quoi.
Oui, mais je sais pas, je pense que j'ai une personnalité différente lorsque je suis sur le terrain et lorsque je suis en dehors. Je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Je regardais un film, alors pas la jeunesse de la vie, mais...
Le cœur de la jeunesse de la vie.
Mais d'autres films voilà, vont m'émouvoir et je vais pleurer assez facilement. Mais effectivement, donc j'ai cette sensibilité-là plutôt que ma maman m'a donnée. Mais ensuite, lorsque je suis sur un terrain, c'est la guerre. Donc, je suis là pour gagner. Et ça, je l'ai eu depuis toute petite.
Oui, mais vous racontez que quand vous avez 5 ans, votre père et votre frère jouent au tennis.
Oui.
Ça fait 2 ans que vous les observez.
Oui.
Et là, vous dites, je veux jouer. Et ils vous regardent éberlués. Et là, vous n'arrêtez pas d'envoyer des balles.
Oui.
Et tout de suite, ça a été...
Effectivement, je l'ai regardé. Puis au bout d'un moment, je me suis mis au milieu du terrain. J'ai dit, mais non, je veux jouer. J'ai tapé du pied sur le terrain. J'ai dit, je veux jouer. Et donc, il n'y avait pas de raquette. Il n'y avait pas de petite raquette. Il n'y avait pas de balle en mousse comme il y a aujourd'hui. Donc, j'ai commencé directement avec une raquette adulte et des balles normales. Donc, pour une enfant de 5 ans et demi, c'est vraiment pas facile.
Tout de suite, les compétitions.
Tout de suite,
vous dites, chaque fois que je perdais, j'en crevais. Vous employez plusieurs fois ce mot. Ouais. C'est gagner ou crever.
Absolument, la défaite pour moi était totalement inenvisageable et j'aurais préféré mourir que de finir seconde. C'était terrible pour moi. Mon premier tournoi, je l'ai gagné, j'avais 6 ans et 4 mois. Et le jour de la finale, j'étais pétrifiée de peur, je ne voulais pas y aller, je me suis levée avec mal de ventre, enfin le classique. Alors les enfants, c'est plutôt quand ils vont à l'école parce qu'ils ont la composition. Moi, c'était pour le match de tennis, au contraire, l'école, c'était youpi.
Ouais.
J'adorais aller à l'école, mais le stress de la compétition, et c'est là où mon papa, effectivement, a eu ce réflexe de ne pas me laisser m'enraciner là-dedans. Ma maman, encore une fois, extrêmement protectrice, il est hors de question qu'elle aille jouer ce match, laisse-la tranquille, elle n'a que 6 ans, elle ne va pas aller faire ce match. Et mon père m'a amenée dans le cabinet médical, très sérieux.
Voir un mort.
Voilà. Très sérieusement. Voilà, très sérieusement. Donc là, je me sentais vraiment bon. Voilà, j'étais vraiment la petite enfant qui était devant le médecin, devant le docteur. Il m'a dit, écoute, tu n'as absolument rien. Cliniquement, tu n'as absolument rien. Donc, je vais être à tes côtés, je vais t'aider, mais tu vas jouer ce match. Et quoi qu'il arrive, même si tu perds, c'est pas grave, mais tu vas aller jouer. Par contre, si tu gagnes, tu peux aller au magasin de journaux acheter tous les bonbons que tu veux.
Et donc,
j'ai gagné et j'ai acheté tous les bonbons que j'ai voulu. Donc, papa, déjà, savait me parler, effectivement.
Il y a eu un moment aussi où vous avez perdu un match, au premier match important. Vous êtes éliminé au premier tour. Pour vous, c'est un drame.
Ouais.
Et votre père dit cette phrase aussi qui est assez étonnante. Il dit, on va rester pour observer les autres et voir ce qui te manque.
Oui, absolument. Comme mon papa n'est pas du tout entraîneur de tennis et médecin avec une formation très scientifique et très cartésienne et sur l'apprentissage, il a tenu ça de ses études. En fait, il s'est dit plutôt, effectivement, on retourne Alors retourner à retournage, je ne suis pas sûre d'avoir employé le bon verbe, mais de rentrer, on va dire, en Haute-Loire et de repartir sur les entraînements avec, en faisant ce qu'on peut parce qu'on n'avait aucune connaissance, enfin, surtout mon papa. Et moi, je suivais ce qu'il me disait. On va observer les meilleures joueuses avec normalement les meilleurs entraîneurs, en particulier étrangers. On va voir ce qu'ils font. On va retenir les informations et puis on va rentrer, on va faire pareil. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, les mêmes joueuses, 2 ans plus tard, c'est moi qui les battais très facilement. Ouais.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Marion Bartoli, venue me parler de son livre Renaître, le plus dur c'est après la victoire, qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, avec Mickaël Quiroga, Lando, Laurent Barra, Jean-Philippe Bizzini et notre invité Marion Bartoli, qui est devenue blonde aussi. Vous, avez, vous êtes métamorphosée.
Ça va très bien.
C'est gentil. Non, mais en fait, souvent, beaucoup de personnes m'ont posé la question en disant « Mais t'étais vraiment brune, brune, pourquoi t'as voulu être blonde ?» Mais ça, ça correspondait à la psychologie d'ailleurs de ce livre. Je voulais changer.
J'ai de tellement, personnalité.
Exactement. J'ai tellement été meurtrie par cette personne qui m'a détruite en ayant une certaine apparence, que j'ai voulu la changer complètement. Alors, c'est peut-être la psychologie de Katsu, mais effectivement, ça m'a aidée à pouvoir me dire, finalement, en changeant d'apparence extérieure, même si je pense qu'à l'intérieur, je suis exactement la même, mais en changeant d'apparence extérieure, finalement, je repars un petit peu de zéro, et ce qui m'est
arrivé
auparavant...
On a plus de succès avec les hommes quand on est blonde.
Je sais pas.
Elle est blonde, elle
s'il vous plaît, dites-lui oui, on rigole.
Comme ça,
demain, elle vient blonde.
Non, je avec les cheveux verts qu'on rigole.
Je peux vous citer une citation de mon amoureux qui m'a dit un jour « Mais tu sais que les blondes, on les prend toutes pour des idiotes, hein, mais toi, t'as l'air intelligente quand même. » Je lui ai dit « Mais tu sais, avant, j'étais brune, hein, j'étais même très très brune. Mais je peux rechanger en brune, hein, si tu veux. Hein. »
Vous avez des très longs cheveux maintenant aussi.
Oui, mais je triche un peu.
Ah, des extensions.
Oui, exactement.
Mais vous savez que la majorité des femmes qui vivent un gros chagrin changent de coupe de cheveux. C'est 90% des femmes vont chez le coiffeur pour se remettre d'un chagrin.
Mais c'est marrant parce que la majorité des mecs...
Moi, je jette mes dessous.
Quoi?
Non, moi, c'est l'inverse.
Tu jettes tes
dessous? J'achète des dessous quand je suis heureuse.
Ah oui?
Ah oui, alors là j'achète en très grande quantité.
Vous jetez,
ah ouais,
vous jetez vos dessous par la fenêtre?
Non mais tu les jettes ceux qui ont servi. Ceux qui sont marqués par un homme, je ne les garde pas pour
Allez
un
faire
autre
les poubelles d'un homme.
Comment ça, ils sont marqués par un homme?
Bah dis donc, tu dois en jeter pas mal.
T'as les mecs de la mairie de Paris, et bah tiens, on a encore retrouvé une culotte d'un Romanov.
Ah, ça doit gueuler dans la rue en bas. Et tous ceux qui habitent au rez-de-chaussée, ils gueulent.
Bon, passons. Alors,
j'imagine les gens. Elle a dû se faire larguer, il y a un vol de culottes.
Et une gaine,
Non, mais c'est vrai quand. Non, mais je parle même pas des dessous, mais même mais quand t'as une robe. Qui... Enfin, je sais pas moi, quand t'as des fois des vêtements qui sont liés. Non, je jette
vous
pas.
Avez
un je
sacré
donne.
Budget.
Mais non, mais quand t'as des vêtements liés à une personne. Non,
c'est... Ah, non, mais elle
non, absolument.
A raison.
Moi,
elle
c'est
raison.
Plus les endroits et les restaurants ou les endroits où on est allé.
Ah, moi, je ne retourne jamais.
Exactement.
Je ne retourne jamais. Je jette mes culottes et je ne retourne jamais.
Marion Bartoli, alors maintenant vous êtes entraîneuse.
Enfin, oui, entraîneur.
Faut finir les phrases.
Ouais, finissez les phrases.
Là, vraiment, j'ai fait une reconversion au Lido directement.
À partir de quelle heure on peut vous voir?
Et c'est dans quel bar exactement?
Vous dites, Marion Bartoli, que les jeunes générations ont la flemme de s'entraîner en fait et qu'on peut rien leur dire. Et pareil, vous dites que quand il y a des entraîneurs qui bousculent un peu un jeune, il y a tout de suite les parents qui téléphonent en disant vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça, et que c'est devenu.
Effectivement, j'étais assez choquée d'ailleurs. Je pense que c'est générationnel. Je pense qu'effectivement, les enfants ont grandi avec les smartphones, les applications, Snapchat, WhatsApp, ce que vous voulez, Instagram, et que déjà, ils ont beaucoup de mal à rester concentrés pendant longtemps. Or, le sport de haut niveau, par définition, il faut s'entraîner énormément.
Vous dites que quand vous repérez un jeune, s'il regarde sur le terrain d'à côté pendant un match, vous ne voulez pas vous en occuper, c'est mort, parce qu'il n'a pas de concentration.
Non, mais vous savez, c'est là où je vois quand même que je suis... parfois un peu trop atteinte, on va dire, dans la perfection, c'est que quand je joue avec mon amour, qui vraiment joue très rarement au tennis et qui regarde de temps en temps à côté, j'ai envie de lui dire « Mais pourquoi tu regardes à côté? Tu ne veux pas être concentré à regarder la balle ?» Je dis rien, je prends sur moi, je dis rien. Mais effectivement, j'ai tellement appris, moi, à rester très concentré que de voir quelqu'un regarder en l'air, regarder le terrain, c'est pas possible.
Vous dites quand vous repérez un jeune, son coup droit, son revers, tout ça, ça peut s'arranger. Oui. Mais la motivation, la gagne, le mental, ça la personne là ou là pas.
Exactement. Alors, je pense qu'on peut l'améliorer, le pousser encore plus haut. Mais si vous ne l'avez pas au départ, ça va devenir très, très compliqué pour être sportif professionnel, tout simplement parce qu'il y a de telles difficultés et une telle concurrence. Parce que dans le monde entier, il y a tellement de jeunes filles ou de jeunes garçons, si on parle des garçons, qui veulent être champion de tennis, qui rêvent d'être champion de tennis, qui rêvent d'être Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, etc.
Marion Bartoli.
Non, je ne me mettrai pas au même niveau que les autres. J'ai un peu plus d'humilité.
Donc là, vous avez des gens que vous entraînez ou il n'y a personne qui trouve grâce à vos yeux?
Non. Je suis malheureusement beaucoup trop occupée pour pouvoir entraîner. Entraîneur, c'est vraiment un métier où vous devez vous impliquer à 100%. Il ne faut faire que ça.
Et vous faites tout à fond, Marion Bartoli, vous.
J'essaie.
Vous avez fait de la mode, vous êtes rentrée à la Saint-Martin School, qui est la meilleure école de mode au monde. Mmh. Vous faites tout à fond, quoi.
J'essaie avec mes petits moyens. Mais après, j'ai eu des échecs. Hein. Je le démontre aussi dans ce livre. La première finale de Wimbledon, je l'ai perdue. Ça a été un immense échec pour moi. J'ai
juste perdu en finale.
Faut qu'il y aille en finale, ouais.
Oui, mais c'est pas bon. Enfin, voilà, c'est perdre en finale, c'est pas bon.
J'ai même pas réussi à aller dans le public, moi.
Laurent Barra, qui vous admire beaucoup, a des choses à vous dire, Marion Bartoli.
Du coup, j'ose pas regarder sur les côtés. Hein. Alors, ce matin, je voudrais rendre hommage à Notre-Dame, notre monument national que l'on pensait insubmersible, cette fierté française récemment fragilisée, victime du feu du désamour. Aujourd'hui, c'est à vous que j'ai envie de rendre hommage. Bonjour Marion Bartoli. Car oui, Marion Bartoli, à une époque où l'on consomme les idoles comme les végétariens s'enfilent les graines de courge à l'apéro.
On se calme avec les végétariens.
Il est bon de le rappeler que vous avez été l'idole de tout un pays, notre championne Notre-Dame, et que pour en arriver à ce niveau de performance, battre Serena Williams, gagner Wimbledon en 2013, vous avez été au-delà de la souffrance physique, poussé par un père qui vous a insufflé ce mental de championne. Tout le contraire du mien. Moi, je me suis remis au sport récemment et j'ai réalisé dans les yeux de mon père que je n'étais plus du tout légitime dans la peau d'un sportif. Mon père, qui toute mon enfance n'a pas arrêté de me gueuler « Arrête de courir, tu vas tomber !» m'a soudainement balancé au bout de 2 tours de stade un inquiétant « Arrête de courir, tu vas mourir !» Faut du mental, faut du caractère, et vous êtes une femme de caractère. D'ailleurs, c'est le premier critère que j'ai inscrit dans ma bio de mon profil Tinder. Quarantenaire, lassée des relations sans lendemain et sans saveur, cherche femme de caractère. Alors, pas obligatoirement sportive. Bon, vous pouvez me matcher, Anne, si vous voulez. Non, je suis très peu actif sur Tinder. Hein. Je me sens mal à l'aise dans ce grand supermarché de l'amour où pervers et narcissique se mélangent afin de ne faire qu'un potentiel mauvais con. Joint. Alors, je bosse, les gars. Alors, j'insiste. Alors, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas banaliser le mot pervers narcissique. Vous écoutez, mesdames, nous sommes tous des pervers narcissiques. Même mon grand-père, parce qu'il monopolise la télé les soirs de match, s'est fait traiter de pervers narcissique par ma grand-mère à 95 ans. C'est pour cela que votre biographie, sobrement intitulée Renaître, est d'utilité publique. Les critiques littéraires diront qu'elle sera certainement un guide pour toutes les femmes maltraitées physiquement et psychologiquement. Eh bien, je pense qu'elle le sera aussi pour moi et pour tous ceux qui ne voient pas la vie à deux avec beaucoup d'optimisme. Car votre histoire doit servir d'exemple. Tout commence par un match avec un mec parmi tant d'autres au classement ATP, les mecs à tes pieds. Ceux qui après...
Ah ouais, ça bosse dur.
Ceux qui après vous avoir vu briller sur un court veulent vous éteindre en vous la faisant, la cour. Puis arrivent les sentiments, un premier coup droit et vous voilà dans ces filets. Double faute, franchissement de la ligne. Vous pensez faire le break, vous êtes solide et vous faites confiance à votre amorti, mais de revers en revers, vous pliez sans sombrer. Eh oui, jusqu'à réaliser que vous n'êtes pas à son service en vous mettant hors jeu de cette terre battue et prendre conscience de la signification du mot renaître. Un livre, des projets et le bonheur retrouvé. Marion Bartoli, ce grand chelem, vous l'avez bien mérité.
Oh, c'est gentil. Merci beaucoup.
Au revoir. On salue cette profusion de jeux de mots.
Ah ouais.
Je vous ai ému, non? Je vous ai ému, vous avez l'œil rouge. Ou alors c'est l'alcool d'hier?
Non, elle vient de se mettre le doigt dedans sans faire exprès.
Non, vous ne m'avez pas ému, non?
Ça fait plaisir. Tu vois, maman, Anne Romanoff m'aime beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invitée Marion Bartoli, venue parler de son livre Renaître, qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Mickaël Quiroga,
bonjour.
Laurent Barra, Jean-Philippe Vizini et notre invité au cœur de la jeunesse de la vie.
Saison 4.
Marion Bartoli, 34 ans, qui vient de publier un livre qui s'intitule Renaître.
Vous avez renaquis,
elle a failli vous dire vous êtes René.
Vous avez
j'ai opéré une renaissance.
Voilà, ah, c'est voilà. Ça.
Ouais. J'ai opéré une renaissance. Oui, totalement, absolument. Mais c'est aussi ce dont je suis fière aujourd'hui, c'est d'être arrivée à me sortir finalement de tout cela, d'avoir beaucoup appris.
Mais qu'est-ce qui a été votre déclic en fait pour vous dire
C'est le jour où il m'a demandé en mariage.
Ah, dis donc, il est culotté lui.
Donc c'était après la cérémonie où j'ai reçu la médaille d'officier de l'ordre du mérite. Donc qui était une distinction pour moi, qui était vraiment très émouvante, bien évidemment liée à mon titre à Wimbledon, etc. Donc j'avais fait une petite réception, j'avais invité le président de Wimbledon avec son épouse. Et donc lors de cette réception, il va parler au président de Wimbledon en lui disant « Ah, ben Marion, elle peut dire qu'elle a gagné Wimbledon, mais moi ça ne m'a pas empêché de lui mettre un ace la dernière fois. » C'est-à-dire que je devais être dans le bar encore en train de boire un verre d'eau qui devait être en train de servir tout seul sur le terrain, qu'éventuellement, effectivement, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas touché la balle. Mais sinon, c'est comme si vous me disiez « Je t'ai mis un ace la dernière fois au tennis. »
C'est quoi
je
un
dire.
Ace
ouais. C'est quand vous servez que je ne touche pas la balle. C'est-à-dire que la balle va tellement vite que je ne peux pas la toucher.
Peux même pas, ouais.
Pour un débutant en tennis, ça paraît peu probable. Effectivement. Puis surtout, dire ça... lors de la cérémonie où j'ai la médaille d'officier de l'ordre du mérite pour avoir remporté Wimbledon, il faut être quand même à sécurité. Et donc on finit la réception, c'était 2h30 du matin, je suis en train de me démaquiller dans la salle de bain de l'hôtel, de la chambre d'hôtel. Et là il s'est assis par terre et il me dit « Ah je sais qu'on n'est pas au mieux notre relation, mais si on se mariait ?» Et là, j'ai ouvert la porte qui était juste à côté. Heureusement, la salle de bain était juste à côté de la porte de sortie de la chambre. Il était venu avec juste un petit attaché-case. J'ai pris l'attaché-case, je l'ai mis dehors. J'ai ouvert la porte, j'ai pris lui, je l'ai poussé dehors. J'ai fermé le loquet, c'était fini. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Hein?
Du coup, il a pris
parce
ça
qu'en fait,
pour un
j'ai une vision. Effectivement, il peut être tellement bête qu'il n'aurait même pas compris. C'est totalement plausible. Mais voilà, là, j'ai une vision en me disant si lui, il perd mes enfants, là, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, à la limite, je peux encaisser, mais là, non, le perd mes enfants, c'est vraiment pas possible.
C'est sûr.
Et ça a été pour moi, là, effectivement, l'électrochoc.
Léa Londo, des questions à vous poser, Marion Bartoli.
Oui, Marion Bartoli. Alors, pour moi, c'est un vrai bonheur de vous rencontrer parce que j'ai fait 14 ans de tennis, donc j'ai regardé tous vos matchs et j'ai failli m'orienter vers le pro quand j'étais plus jeune.
C'est vrai.
Mais comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de pas courir.
Vers le professeur, je veux dire.
En revanche, je connais tous les termes liés au tennis, donc je les ai utilisés moi aussi pour faire une interview à la volée, que de jeux de mots ce matin pour vous. Alors, comme une balle de tennis, qu'est-ce qui vous donne au quotidien la force de rebondir, Marion Bartoli ?
La force de vivre.
Okay. Au cœur de la jeunesse de la vie. Sinon,
ça marche pas, faut le prendre.
Moi, je vais prendre des notes. Hein, parce que
vous diriez que c'est quoi votre plus belle victoire aujourd'hui, Marion Bartoli ?
D'être ici, de vous parler, d'être en bonne santé.
Ouais. Quel est le truc récent qui vous a fait tellement de bien que vous auriez pu dire « Ouais, ça, c'est de la balle ». Et au restaurant, c'est plus agréable quand le service est bon, quand l'addition arrive et qu'on fait 45.
Ah non, moi, je veux absolument payer toutes les additions.
Ah bon ?
Je veux pas qu'on m'invite. Je me bats pour récupérer l'addition avant. Et
pourquoi vous voulez pas qu'on vous invite, Marion Bartoli ?
Parce que j'aime pas ça, j'ai pas été éduquée comme ça. Donc effectivement, quand je suis au restaurant, j'aime bien que ce soit moi qui règle. Et en fait, il a trouvé la tactique. Maintenant, il se lève, il dit non, mais je vais faire autre chose et il paye l'addition avant moi et j'aime pas.
Bah, il est bien celui-là. Votre vie sentimentale, vous l'avez jouée plus en simple ou en double ?
Bah là, aujourd'hui, en double. J'ai eu un moment où vraiment, je voulais plus voir un homme. C'est quoi ? 2016, on s'est quitté ? Pendant un an et demi, je refusais.
Route barrée.
Trop satanas. Vraiment. Et puis, bon, petit à petit, j'ai repris espoir.
Et bah pour rester dans le même thème, à votre avis, Marion Bartoli, dans votre vie, vous avez fait plus de smash ou de smack ?
Non, quand même beaucoup plus de smash. Beaucoup plus.
Et pour finir, si on faisait un match amical en double, vous prendriez Anne Romanoff comme partenaire ou pas ?
Oui, mais je jouerais toutes les balles. Et on gagne.
Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Marion Bartoli, on a une tradition dans cette émission. Chaque lundi, on démarre une histoire. Là, comme c'était férié, on l'a démarré mardi. Isabelle Nanty l'a démarré mardi. Ça a été poursuivi hier par Maxime Le Forestier. À vous de la poursuivre aujourd'hui avec un mot pioché au hasard dans ce chapeau. Marathon. Et donc, il faut que vous continuiez l'histoire en employant le mot marathon en une ou deux phrases. On écoute ce qu'ont fait les autres.
Mon poussin de Pâques picorait dans le jardin à la recherche de ses petits frères pas encore nés. les œufs. Et il tombit.
Ton but, non ?
Il tombit sur une cloche qui tintinabula et l'alarma de la présence d'un méchant loup.
Un méchant loup qui se promenait dans le poulailler et qui, voyant tous ses poussins, s'est dit « j'ai envie de mettre mon nez quelque part » et il l'a fait.
Il l'a fait, mais il a dû pour cela parcourir un chemin immense, faire le tour de toute la maison, même rentrer dans cette forêt gigantesque. Et dans cette forêt gigantesque, le pauvre loup s'est dit « mais ça ne se terminera jamais ce chemin, je n'arriverai jamais à rentrer au poulailler ». C'est un marathon.
Merci Marion Bartoli d'être passée nous voir. On rappelle votre livre Renaître, le plus dur, c'est après la victoire, qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Nous, on vous laisse en compagnie d'Elisabeth Assayag. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1. Merci à vous Marion Bartoli.
Merci à vous.